d'actualité 24 heures sur 24.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du vendredi 17 novembre 2023. Avec vous, Eric Manelakidza. Voici d'abord le sommaire. Faible participation et boycott de l'opposition marquent le premier tour de l'élection présidentielle à Madagascar. Joseph Boakai maintient une légère avance sur Jojo Weah au second tour au Libéria, tandis que la CDAO met en garde contre les troubles. Pénurie d'eau et insécurité croissante affectent la région de Bandiagara au Mali, impactant surtout les femmes rurales.
Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas d'eau dans le puits. Il est vraiment difficile d'avoir de l'eau pour préparer. On n'a pas d'autre solution pour se procurer de l'eau.
Le président du Malawi restreint les voyages à l'étranger pour le gouvernement afin de stabiliser l'économie. La physicienne camerounaise Alvin Kamara remporte le prestigieux prix Edouard Boucher pour ses avancées dans l'étude de la matière noire.
Et aussi, quand on lit l'histoire d'Edouard Boucher, pour savoir qui il est, c'était le premier Africain noir à avoir eu son doctorat en physique. C'était en 1876 à l'université de Yale.
L'agence publique du cinéma au Ghana envisage l'essor du cinéma africain avec des professionnels du secteur. Fin des négociations commerciales entre les États-Unis et l'Asie-Pacifique après le sommet Biden-Xi Jinping. Dans 10 minutes, vous suivrez l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Au Sénégal, l'opposant emprisonné Ousmane Sonko a appelé ses soutiens à la résistance avant une audience sur sa réintégration aux listes électorales. La Cour suprême examine ce vendredi un recours de l'État contestant l'annulation par un juge de Ziguinchor sa radiation des listes électorales. Cette radiation l'empêche de se présenter à la présidentielle du 25 février 2024. Les soutiens de sa coalition ont aussi appelé à manifester pacifiquement aujourd'hui. La Cour de justice de la CDAO, saisie par les avocats de l'opposant, doit aussi rendre à Abuja sa décision sur cette affaire. Ousmane Sonko a été écroué fin juillet pour appel à l'insurrection, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et atteinte à la sûreté de l'État. Le premier tour de l'élection présidentielle à Madagascar a pris fin, même si la plupart des candidats de l'opposition ont boycotté le scrutin et plusieurs semaines de manifestations violentes précédant le jour du vote. Claire Morin-Gibourg.
L'abstention au premier tour semble avoir été massive sur fond de vives tensions entre le sortant Andry Rajoel et 10 candidats de l'opposition qui avaient appelé au boycott. « Nous ne reconnaissons pas ces élections et la population malgache dans sa grande majorité non plus », a déclaré à la fermeture des bureaux de vote Ajo Andrianaï Narivel au nom des 10 opposants rassemblés en un collectif et comptant notamment 2 ex-présidents. Les opposants citent de premiers chiffres transmis par des observateurs internationaux estimant la participation autour de 20%. 11 millions d'électeurs devaient choisir entre M. Rajoel, 49 ans, et 12 autres candidats, dont ceux du collectif, qui n'ont pas fait campagne. Alors que le dépouillement a commencé, les résultats seront connus dans une semaine, au risque de prolonger la crise politique dans la grande île de l'océan Indien. Le deuxième tour, si nécessaire, est prévu le 20 décembre.
Joseph Boakai, leader de l'opposition au Libéria, maintient une légère avance sur le président sortant Jojo Weah dans le second tour de l'élection avec 50,6% contre 49,4% après le dépouillement de 87% des bureaux de vote. Michel Claire-Joseph.
L'élection a été largement considérée comme un test de soutien pour le président sortant, George Weah, 57 ans, qui a été critiqué lors de son premier mandat par l'opposition et les partenaires internationaux pour ne pas s'être suffisamment attaqué à la corruption. Boakai, 78 ans, qui a perdu lors de l'élection de 2017, a fait campagne sur la nécessité de sauver le pays de ce qu'il appelle la mauvaise gestion de l'administration de Weah. En attendant la publication des résultats, la CDAO a mis en garde tout le monde qu'elle va tenir pour responsables les auteurs de troubles, d'appels à la haine et de violence.
L'ONU dénonce un élargissement du conflit au Soudan à d'autres régions du pays en dehors du Darfour, avec des affrontements meurtriers qui se sont poursuivis notamment à Khartoum. Après près de 7 mois de conflit entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide, environ 25 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire, selon le chef des opérations humanitaires de l'ONU. Le président du Malawi a annoncé une interdiction temporaire des voyages à l'étranger pour les membres de son gouvernement, une mesure qu'il appliquera également à lui-même. Cette décision vise à réduire les dépenses du pays et à faire face à la crise économique. Jacques Aristide.
J'impose le gel de tous les voyages à l'étranger financés par l'État pour tous ses agents à tous les niveaux jusqu'à la fin de l'année fiscale en mars, a déclaré Lazarus Chakwera. Le chef de l'État, un ancien prêcheur évangélique, ne se rendra donc pas au sommet de la COP28 sur le climat prévu à partir de fin novembre aux Émirats arabes unis. Il a également ordonné à tous les membres de son gouvernement, actuellement en déplacement officiel à l'étranger, de hâter leur retour au pays et une réduction de moitié du budget de carburant des hauts responsables gouvernementaux. Le Malawi, État enclavé entre Mozambique, Tanzanie et Zambie, a annoncé cette semaine une dévaluation de 44% de sa monnaie, le kwacha, pour pouvoir obtenir un prêt du FMI, le Fonds monétaire international, qui a alloué une enveloppe de 175 millions de dollars à ce petit pays d'Afrique australe.
Cette semaine, à Accra, l'agence publique du cinéma au Ghana a rassemblé des réalisateurs et des distributeurs de films pour aborder l'avenir du cinéma africain que la directrice de l'agence estime posséder un potentiel énorme mais encore largement sous-exploité. Mohamedou Oumfa.
À l'occasion des rencontres du cinéma africain, Madame Juliette Asante a convié plusieurs réalisateurs et distributeurs, dont le Nigérian Film One Group et le Ghanéen Silverbird Cinema. Il y a des histoires à raconter partout. Nous avons tellement de récits à portée de main que nous n'avons pas encore exploité, a-t-elle expliqué. Et ce, malgré les récents succès de films africains sur les plateformes de streaming, comme le thriller nigérian The Black Book, sorti sur Netflix cette année. Le continent africain, dont la population est la plus jeune au monde, selon les Nations Unies, ne compte que 1 700 salles de cinéma contre 44 000 aux États-Unis et 75 000 en Chine. Sur le continent, Nollywood, l'industrie du film au Nigeria, produit environ 2 500 films par an et se positionne juste derrière Bollywood, le géant indien qui domine le cinéma mondial. Les pays africains souffrent d'un manque d'investissement structurel dans cette industrie qui génère environ 5 milliards de dollars par an. Mais une hausse des investissements permettrait de créer plus de 20 millions d'emplois et de générer 20 milliards de dollars de revenus par an, note l'UNESCO dans un rapport de 2021.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les négociations commerciales entre les États-Unis et les pays d'Asie-Pacifique, lancées samedi dernier, prennent fin aujourd'hui à San Francisco, en Californie, après le sommet d'hier entre les présidents américains Joe Biden et chinois Xi Jinping. Yacouba Ouedraogo.
Nous sommes ici pour y rester, a déclaré le président Joe Biden lors de son discours aux dirigeants et patrons réunis à San Francisco pour le sommet de l'APEC, la coopération économique pour l'Asie-Pacifique. Il a livré les détails de sa rencontre d'hier dans les collines californiennes avec son homologue chinois, soulignant que Xi Jinping a questionné l'implication américaine dans le Pacifique, à quoi Biden a répondu en mettant en avant le rôle pacificateur et sécuritaire des États-Unis dans la région pour favoriser la croissance. Dans un contexte de rivalité avec la Chine, les États-Unis cherchent à renforcer leurs alliances avec 21 pays de l'APEC, représentant 60% de l'économie mondiale. Le président chinois est venu à San Francisco vanter les mérites de Pékin comme moteur de croissance mondiale face à des investisseurs étrangers pour certains plus hésitants. Joe Biden a assuré que des engagements tangibles ont été négociés en un temps record pour un pacte commercial avec 13 pays de la région, dont le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et une grande partie de l'Asie du Sud-Est, excluant la Chine.
Les États-Unis se sont déclarés jeudi profondément préoccupés par la frappe qui a touché l'hôpital militaire jordanien à Gaza et blessé 7 personnes, se disant opposés à des frappes aériennes sur des hôpitaux. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est entretenu par téléphone avec le ministre jordanien des Affaires étrangères pour lui faire part de sa profonde inquiétude concernant le personnel médical jordanien blessé à l'extérieur de l'hôpital de campagne jordanien alors qu'il prodiguait des soins médicaux essentiels à Gaza, a fait savoir le département d'État. Le chef de la diplomatie américaine qui participait au sommet de la paix à San Francisco a réitéré que les civils et le personnel médical dans les hôpitaux doivent être protégés selon un communiqué. Joe Biden rencontrera ce vendredi à San Francisco son homologue mexicain pour aborder une série de sujets difficiles dont l'immigration et le trafic de fentanyl.
Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco, présentée ce matin par Nathalie Barge.
Le premier constructeur automobile marocain, Neo Motors, va rejoindre la bourse de Casablanca, indique Bloomberg. Le fondateur de l'entreprise créée en 2017, Nassim Belkayat, a déclaré vouloir produire 15 000 véhicules par an d'ici 3 ans et introduire des modèles électriques. La vente du premier modèle débute ce mois de novembre. La compagnie fabrique sa propre carrosserie, son propre cadre, son système de câbles électriques et confie le reste à une quarantaine de fournisseurs locaux. La conférence sur les réparations pour les crimes historiques contre les Africains se tient à Accra, au Ghana, jusqu'au 17 novembre. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a appelé ses homologues à s'unir en vue d'obtenir des réparations pour l'esclavage. Lorsque les Britanniques ont mis fin à cette pratique, les propriétaires ont reçu des compensations financières et aux États-Unis, ils recevaient $300 pour chaque esclave. Mais ces derniers n'ont pas reçu un sou, a-t-il déploré. Plusieurs pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ont signé un accord de coopération avec l'Union européenne sur les 2 prochaines décennies, faisant suite à l'accord de Cotonou signé en 2000. Il établit des principes communs en matière de développement et d'environnement, entre autres questions prioritaires. L'ensemble des pays signataires représente la moitié des membres des Nations unies et plus de 2 milliards d'habitants.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
L'Afrique compte désormais 3 représentants qualifiés pour les 8e de finale du mondial des moins de 17 ans en Indonésie.
Oui, le Mali et le Maroc rejoignent le Sénégal en 8e de finale de cette Coupe du Monde des moins de 17 ans. Les Lionceaux de l'Atlas ont sécurisé leur place après 2 victoires consécutives contre le Panama et le pays hôte. L'Indonésie battue 3-1, tandis que le Mali a dominé le Canada 5-1 pour une 2e victoire dans cette compétition. L'Afrique affiche un bilan de 3 qualifications sur 4 avec l'espoir du Burkina Faso pour une place de meilleur 3e demain samedi face à la Corée du Sud. Les étalons cadets ont besoin d'une large victoire pour décrocher leur qualification. Le Sénégal déjà qualifié vise la première place de son groupe lors de son prochain match contre le Japon. Aujourd'hui,
les éliminatoires pour le Mondial 2026 se déroulent avec les matchs de la première journée qui se poursuivent à travers le continent.
11 rencontres sont prévues, donc Comores, Centrafrique dans le groupe I, Guinée, Ouganda dans le groupe G, Ghana, Madagascar dans le groupe I, la Zambie reçoit le Congo, le Burkina Faso affronte la Guinée-Bissau, le Cameroun fait face à Maurice, la Côte d'Ivoire joue les Seychelles, le Mali affronte le Tchad au stade du 26 mars de Bamako avec une baisse du prix des billets des gradins publics décidée par le ministre malien des Sports. L'objectif est de célébrer sportivement le retour des Kidal dans la région de l'autorité de l'État du Mali. Davantage avec Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako.
Pour permettre au public sportif malien de fêter la victoire héroïque des femmes forces armées maliennes en communion avec les aigles du Mali, à la demande du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdoul Kassim Fomba, la commission nationale chargée de l'organisation des compétitions internationales en football a baissé le prix des billets des chaises gradins publics de 2000 francs CFA à 1000 francs CFA. C'est l'essence des communiqués de presse signés le 15 novembre dernier par le secrétaire général du dit ministère, Amadou Diarra Yalkouyé. Cela pour magnifier sportivement le retour de Kidal dans le giron de l'État central du Mali au prix d'un sacrifice ultime des femmes le 14 novembre 2023. Une décision saluée par le vice-président de l'Union nationale des associations des supporters des aigles du Mali, UNASAM, Cheikh Ned Demba, qui a appelé à une mobilisation générale des supporters pour soutenir les Aigles du Mali. Siaka Traoré, Bamako, pour VOA Afrique.
C'était l'espoir avec Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manirakidza de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Mali, dans la région de Bandiagara, dans le centre du pays, outre l'insécurité croissante, plusieurs villages sont touchés par une grave pénurie d'eau, obligeant certains habitants à se tourner vers l'eau des mares durant la saison des pluies. Les femmes rurales subissent particulièrement les conséquences de ce manque d'eau. Dokoro, la correspondance de Tidiani Ouedraogo.
Si l'eau est la source de vie, elle se fait rare ces jours-ci dans plusieurs villages du plateau d'Ogon. Comme ici à Goulfal, un village situé à quelques kilomètres de Koro. Cesser de l'eau est devenu une corvée difficile pour les femmes. Rencontrée devant le grand puits du village, Hawa nous raconte leurs difficultés.
Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas d'eau dans le puits. Il est vraiment difficile d'avoir de l'eau pour préparer. On n'a pas d'autre solution pour se procurer de l'eau.
Les femmes sont les plus affectées par la pénurie d'eau. Elles sont traditionnellement chargées de la collecte de l'eau et parcourent souvent des kilomètres. Lamata est dans sa cuisine en train de préparer les taux. Elle nous raconte comment elle a pu trouver l'eau.
Je me suis levée à 5 heures du matin. J'ai pu avoir un peu d'eau et là, je prépare pour ceux qui sont au champ.
Dans ces localités, l'accès difficile à l'eau fragilise la résilience des populations déjà affectées par l'insécurité. C'est du fait du jardinage depuis des années. Il dit que le plus obstacle à ces activités est l'eau.
Pas loin que l'année passée, j'ai eu à mettre quelques trentaines de pieds de papaye. Alors, les papayes ont tellement donné qu'il y avait des pieds qui avaient plus de 50 fuivis, même 60 fuivis. Mais à partir du mois d'avril, comme je n'avais pas assez d'eau, bon, l'eau m'a manqué. Finalement, mes papayes ont commencé de périr et j'ai vraiment perdu en pleine cueillette.
Maïmouna est une femme déplacée à Koro. Elle a aussi choisi les jardinages pour sa propre réinsertion socio-économique. Elle veut bien profiter du secteur, mais a besoin d'accéder à un point d'eau supplémentaire dans son jardin.
J'arrose les salades, oignons, un peu de tout. On veut les faire et bien profiter de notre activité si on a un point d'eau supplémentaire.
Afin d'atténuer la souffrance de ces femmes dans ces zones, les autorités de la transition ont pu réaliser des forages dans plusieurs villages. Mais beaucoup de ces ouvrages sont inachevés. Tidiani Ouedraogo pour VOA Afrique, Koro.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali. Sur 102 FM.
La Chine domine comme principal fournisseur et client en Guinée, forgeant une coopération initiée depuis 1959, couvrant divers secteurs. Les détails de notre correspondant Zakaria Kamara.
La Chine a ouvert ses portes à la Guinée. Plus de la moitié du total des exportations guinéennes prennent la direction de l'empire du milieu. Selon l'Institut national de la statistique, ce géant asiatique fait partie des principaux clients de la Guinée, avec plus de 26% du total des importations.
La Guinée est dans un accord cadre avec la Chine, qu'elle a signé en 2017, entre dans un schéma mine contre infrastructure, pour une valeur de plus de 20 milliards de dollars sur 20 ans. Donc aujourd'hui, les travaux qui sont en cours dans la capitale pour 85 km de voirie urbaine sont un financement chinois dans le cadre de cet accord. Et il y a également la route Koya-Mamoud-Abola qui est financée dans le cadre de cet accord. Il y a d'autres en perspective comme la construction des universités et d'autres endroits. Donc aujourd'hui, on peut dire que parmi tous les partenaires bilatéraux de la Guinée, la Chine est sans doute le pays qui a le financement le plus élevé en Guinée.
Les achats de la Guinée en provenance de la Chine ont doublé en août dernier. Mais la Chine, c'est aussi une présence dans le secteur de la santé, comme ici. L'hôpital sino-guinéen est géré par un personnel mixte.
Chaque mercredi, de 14h à 16h30, on fait la langue chinoise à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne. Et sans compter aussi, parmi nous, il y a beaucoup qui ont fait leur spécialisation, leur étude. L'un des problèmes aujourd'hui que nous avons avec nos collaborateurs les chinois, c'est cette barrière linguistique. Et ce n'est pas tout le monde chez nous ici qui parle le chinois. Et les chinois aussi, ce ne sont pas tout le monde qui parle l'anglais. Donc par endroit, il y a une barrière linguistique. C'est ça qui a motivé les premiers directeurs de faire le cours de chinois à l'hôpital ici.
À l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, les étudiants accueillent avec joie les cours de mandarin.
Je pense que c'est une bonne nouvelle pour nous parce que au-delà des autres langues internationales, nous allons aussi apprendre, c'est-à-dire au-delà de la langue française et la langue anglaise, nous avons aussi l'opportunité d'apprendre la langue chinoise. C'est un atout pour nous.
Nous savons tous que c'est une langue internationale et c'est un grand projet pour Gamal d'avoir des étudiants qui étudient la langue chinoise et ça apporte beaucoup d'avantages aussi pour nous. Apprendre la langue chinoise, ça nous aide beaucoup à la recherche du boulot, des partenariats et aussi des projets d'embauche.
La Guinée possède la plus grande réserve mondiale de bauxite, dont environ 50% sont exploités et exportés par 14 entreprises chinoises. Mais la Chine est également impliquée dans Simandou et trois multinationales du géant asiatique interviennent sur ce plus grand gisement de minerais de fer non exploité au monde, un gisement estimé à 10 milliards de tonnes. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Retrouvez les programmes de VOA Afrique en Guinée sur Radio Milo FM 99.5 à Cancan et à Siguiri, Bolivar FM 99.4 à Mamou, Sabari FM 97.3 à Conakry, Sabou FM 96.6 à Kindia, Soleil FM 93.5 à Conakry.
Les présidents américains Joe Biden et chinois Xi Jinping se sont rencontrés près de San Francisco à l'occasion du sommet de l'APEC. Leur rencontre a abouti à un accord pour restaurer les communications militaires, collaborer dans l'évaluation des menaces liées à l'intelligence artificielle et prendre des mesures concrètes pour lutter contre le problème du fentanyl. C'est un reportage de Anita Powell depuis Woodside en Californie. Le récit avec Claire Morégibourg.
C'est une rencontre historique qui a eu lieu après 12 mois de tensions entre Pékin et Washington. Cette réunion a permis de couvrir un large éventail de questions dont Taïwan, la reprise des communications militaires, les désaccords commerciaux, l'origine des ingrédients du fentanyl en Chine et les questions relatives aux droits de l'homme. Monsieur Biden a déclaré qu'il a été franc sur ces questions difficiles. Monsieur Xi a affirmé que les deux nations sont inextricablement liées.
Pour deux grands pays comme la Chine et les États-Unis, tourner le dos à l'autre n'est pas une option. Il n'est pas réaliste pour une partie de remodeler l'autre. Et le conflit et la confrontation ont d'insupportables conséquences pour les deux parties.
Les leaders des deux nations les plus puissantes du monde ont-ils réussi à aplanir leurs divergences? Monsieur Biden s'est adressé à la presse après la rencontre.
Je me félicite des mesures positives que nous avons prises aujourd'hui. Il est important que le monde voit que nous mettons en œuvre cette approche dans les meilleures traditions de la diplomatie américaine. Nous parlons à nos concurrents et nous parlons simplement, sans détour, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, comme un élément important du maintien de la stabilité mondiale et de la réalisation des objectifs du peuple américain.
Le président américain a aussi réitéré une position qui risque d'irriter Pékin en qualifiant Xi Jinping de dictateur.
Eh bien, écoutez, il est. Je veux dire que c'est un dictateur.
Personne ne s'attendait à des résultats majeurs, mais les deux parties se sont parlé. Le premier ministre malaisien, Anwar Ibrahim.
This engagement, for example, between President Biden and Xi Jinping, to me,
cet engagement, par exemple, entre le président Biden et Xi Jinping est pour moi essentiel, car il devrait transmettre le message clair. Nous sommes ici pour pouvoir travailler ensemble et nous devons nous faire confiance pour résoudre des problèmes sérieux. Le climat, les questions en Ukraine ou à Gaza.
Enfin, le succès du sommet des pays de la région Asie-Pacifique ou APEC qui se tient à San Francisco dépend aussi de la bonne entente entre les deux plus grandes économies du monde.
La physicienne camerounaise Alvin Kamara, professeure à l'Université de Californie, reçoit le prestigieux prix Edward Boucher 2024 de la Société américaine de physique pour ses recherches novatrices sur la matière noire, éclairant ainsi une part mystérieuse de l'univers. Elle partage ses découvertes dans cet entretien exclusif avec Mohamedou Oumfa depuis la Californie.
Je me sens tellement honorée par l'Association des physiciens en Amérique qui m'a décerné ce prix-là, parce que c'est un prix très prestigieux qui a été créé depuis 1994 et qui honore les physiciens de minorité, soit de race noire, soit des hispaniques ou soit des natifs américains. Donc le prix honore un physicien de minorité qui a excellé dans la recherche et aussi qui a contribué à avancer la diversité en physique. Et aussi quand on lit l'histoire d'Edward Boucher, pour savoir qui il est, c'était le premier Africain noir à avoir eu son doctorat en physique. C'était en 1876 à l'Université de Yale. Bien que le prix m'ait été décerné le 24 octobre de cette année, je vais recevoir le prix physiquement en avril et ça sera à Sacramento.
Vous avez été distingué pour vos travaux de recherche sur ce qu'on appelle la matière noire. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi renvoie cette matière noire?
Quand les astrophysiciens ont commencé à étudier la dynamique des stars et la dynamique des galaxies, ils ont constaté qu'il y avait plus de matière dans l'univers que ce qu'on voit. Donc, cette matière-là qui vient en estrade à la matière visible que nous tous en connaissons est appelée matière noire parce qu'elle n'émet pas de lumière ou elle n'interagit pas du tout avec la lumière. Donc on l'appelle matière noire ou matière invisible. Et mon but de recherche, c'est de créer des détecteurs qui vont essayer de découvrir cette matière noire-là pour qu'on puisse fondamentalement répondre qu'est-ce que la matière noire.
Quel serait l'intérêt pour le grand public qu'on en sache un peu plus sur la matière noire? À quoi ça servirait concrètement?
Déjà de un, si on découvre la matière noire, on pourra comprendre mieux comment l'univers a été formé. Vous savez qu'il y a tellement de théories là-dehors qui expliquent l'évolution de l'univers. Mais plus encore, va nous permettre aussi de comprendre comment l'univers va évoluer. Il y a aussi des théories qui disent que peut-être que l'univers va continuer à s'étendre. Il y a d'autres théories qui disent que peut-être que l'univers va se compresser dans des milliards d'années. Et nous tous, donc, nous serons tellement proches qu'on va mourir d'une situation d'extrême chaleur. Pouvoir découvrir cette matière noire-là va nous permettre de valider la théorie du juste milieu. Et plus encore, quand on va découvrir la matière noire, on va maintenant pouvoir la comprendre, l'étudier bien au laboratoire. Et de ces études-là pourront naître les nouvelles technologies.
Alors maintenant que vous avez obtenu la reconnaissance du monde scientifique par rapport à ces travaux de recherche sur la matière noire, quels sont vos projets, quelles sont les prochaines étapes?
L'expérience sur laquelle je suis en train de travailler présentement, elle s'appelle ELSI, Lux Zeppelin en anglais. Et cette expérience-là est la plus sensible au monde pour pouvoir découvrir la matière noire. Et elle est l'expérience que le département de l'énergie aux États-Unis a financée complètement parce que le département de l'énergie croit à la capacité du détecteur qu'on a construit à pouvoir détecter la matière noire. On a construit notre détecteur, on a pris des données pendant 60 jours et on a pu publier la meilleure sensibilité pour la matière noire dans l'univers. Donc maintenant, on est en train de prendre encore des données pour les presque 5 prochaines années et on va étudier ces données-là, voir si on a trouvé la matière noire ou pas. Si on ne trouve pas la matière noire avec cette expérience primaire-là, certains collègues et moi, on est déjà en train de travailler sur un détecteur qu'on mettra sur pied dans 10 ans. Et ce détecteur qu'on mettra sur pied dans 10 ans sera plus sensible que ce détecteur-ci. Et ici, à UCLA, je suis en train de construire un laboratoire qui va pouvoir faire certaines recherches sur différents aspects, comment optimiser le détecteur qu'on a construit présentement et comment optimiser le détecteur futur.
La physicienne camerounaise Alvin Kamara, professeure à l'Université de Californie. C'est la fin du monde aujourd'hui, la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Eric Manelakiza à la mise en onde, Lionel Vnanila Gahima, un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com, nos pages Facebook, YouTube, X, Instagram pour un suivi de l'actualité.